BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler des fintechs. Et oui, vous connaissez évidemment ce terme. Ça fait plusieurs années qu'on l'utilise, qu'on en reçoit ici même. Et d'ailleurs, on en a une avec nous aujourd'hui dans cette session BFM Stratégie. Mais justement, il serait peut-être un peu temps de démystifier un peu ce que fait une fintech, la concurrence vis-à-vis des, ou la complémentarité vis-à-vis des banques. On a beaucoup de choses à raconter autour de tout ça. Parce que justement, ce mot fintech, parfois, c'est un mot un peu valise. Alors, on va en parler avec nos deux expertes qui sont là avec nous. Alban de Vauplate, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire au BCG, le Boston Consulting Group, qui est notre partenaire pour ces sessions BFM Stratégie. Et avec nous également, Morgane Hoana. Bonjour.
Bonjour.
Morgane, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de la FinTech De Facto, solution de financement dédiée aux PME. Vous avez déjà prêté près d'un demi-milliard d'euros à vos clients. Donc, vous serez là en tant que témoin, justement, autour de tout ça. FinTech. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses autour de ce mot? On pourrait en parler pendant une heure, mais ça va être en quelques minutes. Comment se structure justement cet écosystème? Est-ce qu'on peut le segmenter justement, Alban?
Alors, le premier problème, c'est qu'il y a à peu près autant de définitions que ce qu'il y a de personnes qui parlent sur le sujet. Parce qu'on a d'un côté les services financiers, ce qui est un monde très très vaste, avec des choses qui vont des paiements à la banque du quotidien, tout ce qui va être financement, même la comptabilité ou l'assurance quand on prend des définitions plus larges. Et il y a une deuxième réalité qui est la technologie, qui est la deuxième moitié de ce mot valise, qui est, en fait, il n'y a plus de services financiers aujourd'hui sans technologie.
Oui.
Donc à partir de là, tout le monde et à peu près n'importe qui peut dire qu'il devient une fintech. On va avoir des entreprises du CAC 40, à la Worldline et Edenred, on va avoir des jeunes pousses comme De Facto. Et vu la part de la dépense IT et tech dans les banques, on pourrait même penser les qualifier de fintech peut-être. Donc là, on va essayer de se concentrer sur les gens qui sont en rupture. Et on va revenir sur quelle rupture après.
C'est comme ça un peu qu'on les caractérise, hein, ces fintechs, oui. C'est celles qui offrent quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que ça innove vraiment une fintech? Parce que souvent, il peut y avoir des innovations, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, ils ont juste numérisé un service qui existait quelque part déjà. Donc, elle est où l'innovation dans la fintech?
Alors ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est effectivement celle qu'on voit et qu'on touche du plus près, celle qui nous parle parce qu'on y est confronté. Ça va être tout ce qui est, par exemple, PayPal qui va permettre de faire des paiements en ligne, une néobanque qui va avoir une offre beaucoup plus digitale avec une interface client beaucoup plus sympa. Et en général, on va plutôt s'attacher à tout ce qui va être les services qui sont devenus gratuits grâce à une fintech et qui, du coup, nous plaisent bien. Ça, c'est un peu réducteur. Il y a effectivement toute une partie des fintechs qui construit son innovation et sa rupture sur une expérience client qui est nouvelle et qui est différente. Donc, on a parlé de Lydia, de Revolut, de gens comme ça. Il y a aussi toute une partie de fintech qui construit sa rupture sur une vraie technologie et la façon dont elle le déploie dans son entreprise. Donc là, on va avoir de l'IA, on va avoir de la blockchain, on va avoir des rails nouveaux qui se créent. Par exemple, les paiements internationaux, qui sont quelque chose avec lequel beaucoup d'entreprises sont confrontées. Il y a des rails complètement nouveaux qui se créent indépendamment des rails qui existaient. Et le troisième grand type de rupture qu'on va avoir, c'est toutes les innovations de business model. Et là, par exemple, on va avoir des entreprises qui reconçoivent comment est-ce qu'on apporte le service au client. Et c'est pas juste de la numérisation, c'est en général, on avait un segment client que personne ne pouvait servir, parce que trop cher, compliqué, pas vraiment de case pour les banques pour le faire. Et du coup, on apporte une façon nouvelle de rendre le service.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, c'est juste un service qu'on a numérisé, mais c'est un service qui n'existait pas, en fait. Et c'est ce que propose De Facto. Donc, c'est le financement, du financement à court terme pour les PME. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas dans une banque traditionnelle, mais les banques ne le font pas. Et donc, c'est là où vous engouffrez avec De Facto.
Exactement. Donc, en fait, si on prend le marché du financement de trésorerie, c'est aujourd'hui 800 milliards d'euros de créances. C'est essentiellement des factures qui sont en attente de paiement. Les banques en couvrent 150 milliards et en fait le reste est porté par la trésorerie des entreprises. C'est un marché qui était historiquement, je dirais, plus risqué, plus fragmenté et donc plus coûteux. Il y a eu des grands changements dans les, je dirais, 5-7 dernières années qui permettent finalement d'adresser ce marché-là différemment. La première, c'est l'open banking qui consiste globalement à pouvoir accéder à des données bancaires de manière fiable et avec des tiers. La deuxième, c'est la digitalisation des entreprises. Comme mentionné par Alban, les entreprises s'équipent d'outils de gestion, d'outils de facturation qui sont complètement dans le cloud. Et la troisième, c'est la facturation électronique qui va arriver. Et donc, De Facto, finalement, tire parti de ces changements-là pour repenser une infrastructure de crédit. En fait, on se repose sur ça pour délivrer du crédit de manière plus simple et plus flexible, plus instantané.
Et puis, ce que vous allez faire, enfin, en regardant un peu votre, c'est que vous allez aussi vous intégrer un peu mieux dans, on va dire, les outils, les interfaces avec les PME qui veulent un peu gérer ça, entre guillemets, toutes seules.
Exactement. Aujourd'hui, on s'intègre, en fait, dans les outils quotidiens des PME, donc dans Penny Lane, dans Conto, dans leurs outils de trésor. Et en fait, ça permet de réduire le délai d'évaluation de crédit à 27 secondes. En fait, on va tirer les données brutes et on va pouvoir répondre en quelques secondes et leur permettre d'accéder à du financement en un clic.
D'accord. Et ça veut dire qu'avec la data que vous récupérez, vous êtes capable aussi de créer vos propres modèles de risque, par exemple.
Exactement. On a développé nos propres modèles de risque et on a analysé, en fait, depuis notre lancement, 24 millions de transactions. Et ça fait pas mal de data.
Et vous avez levé vos propres fonds de dette, hein, c'est ça ?
Exactement. Et donc, finalement, la dernière brique à être une fintech, c'est de déployer ses propres services financiers. Mm-hmm. Et donc, on a levé un fonds de dette. Le dernier en date, c'est avec Citibank. Et on a été chercher nos propres licences. On est la première fintech de financement B2B à être agréée par la CPR en tant que société de financement.
On reviendra d'ailleurs sur cet aspect réglementation aussi, parce qu'il faut comprendre comment les fintechs doivent naviguer aussi dans cet environnement très réglementé des banques. Alban, justement, les banques plus traditionnelles dans tout cela. Alors, maintenant, on a quand même pas mal de recul. On voit qu'il y a de la concurrence, mais il y a aussi de la complémentarité, de la coopétition. Hein. C'est un peu comme ça qu'on voit se développer ces fintechs à côté des banques, voire même certaines qui se font racheter.
Oui, et elles auraient, enfin, à mon avis, intérêt à beaucoup plus collaborer sur un certain nombre de sujets. Historiquement, ça a été assez compliqué au niveau de la collaboration entre les fintechs et les banques, mais comme entre tout ce qui est collaboration entre des startups et des grands groupes, c'est jamais évident. Il y a eu d'abord une phase de défiance, parce que quand on voit des startups qui arrivent, qui proposent gratuitement des services qui étaient historiquement bien rémunérés, on pense un peu à Uber et au marché du taxi, ça fait pas très envie, il y a forcément une logique de défiance tout de suite. Il y a eu une grande vague, du coup, d'acquisition et de tentative d'internalisation des fintechs par différentes banques, avec des BNP qui a racheté Floa, BPCE qui rachète le pot commun, Payplug qui fait des partenariats, etc. Société Générale avec Swile. Enfin, elles ont toutes trempé là-dedans. Quand on prend un peu de recul, on voit que les deux tiers, à peu près, de ces partenariats ou de ces acquisitions n'ont pas créé de valeur. Parce qu'en fait, quand on est une grande banque et qu'on rachète une petite entreprise qui est plutôt en marge des activités, sur une niche, et qui représente quelques millions de chiffres d'affaires, et qui est en général plutôt pas rentable, forcément, ça va être très difficile d'investir suffisamment pour vraiment accélérer son développement.
C'est pour ça qu'on a eu quelques échecs, d'ailleurs, de rachat.
On peut dire des échecs, oui. On peut le dire. Pour que ça marche, il faut être prêt, par exemple, comme Société Générale avec Boursorama, à investir énormément d'argent pendant très très longtemps pour vraiment arriver à enclencher la machine et à pouvoir après tirer les bénéfices. Mais c'est une logique, ça a pris des années, quoi. Ce qui peut fonctionner, c'est quand vraiment on se dit, comme dans tout mariage finalement de raison, qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on va chercher de la complémentarité parce qu'on va chercher un nouveau segment de clients ? Est-ce qu'on va chercher une capacité d'innovation ? Est-ce qu'on va chercher de la rentabilité sur un segment qu'on ne savait pas faire ? Et surtout pour les banques, comment est-ce qu'on fait pour que ce partenariat qu'on est en train de conclure nous permette de renforcer la relation client, qui est quand même le beurre sur lequel on fait nos affaires ?
Et justement, vous, chez Defacto, avec les banques, c'est plutôt un côté partenariat, c'est ça ?
Exactement. Aujourd'hui, nous, on voit les banques comme un partenaire. On met à disposition cette nouvelle infrastructure de crédit. Et en fait, on pense qu'en combinant finalement notre technologie, notre expérience client, et la force de frappe et l'expertise des banques, ça offre aux PME finalement le meilleur de deux mondes. Et donc, pour que ça marche, il y a quelques facteurs clés de succès à avoir bien en tête. Le premier, comme Alban disait, il faut être clair et explicite sur la création de valeur et le rôle de chacun. Qui amène la liquidité, qui amène les clients, qui amène la technologie. Le deuxième, c'est qu'il faut se faire confiance finalement. Et par là, la réglementation joue un grand rôle. Le manque de réglementation peut être perçu comme de la concurrence déloyale. Et donc, c'est le rôle des fintechs d'opérer dans un cadre réglementaire clair.
Oui, c'est pas
le Far West. Oui, voilà. Le plus rapidement possible. Le troisième, c'est les délais. En fait, en fintech, on doit rapidement prouver la viabilité de notre produit pour aller chercher des fonds. Et donc, il faut être conscient que les délais avec les banques sont plus longs. Et donc, ça doit s'inscrire dans une vision long terme. On ne doit pas attendre des résultats, en fait, les 3-6 prochains mois. Et finalement, le dernier, je dirais, c'est les intégrations technologiques. Les banques opèrent sur des systèmes d'information qui sont créés depuis des décennies et elles ne vont pas les changer pour travailler avec nous. Et donc, sur ça, en fait, on doit mettre les bonnes ressources pour bien s'intégrer à leur système à elles.
Alors, dans ce domaine de ces startups, et c'est tout ce qu'on souhaite à de facto, hein, et on voit beaucoup de licornes aussi dans cet univers qui sont actives dans ce secteur des fintech. Est-ce que voilà, on va se projeter, voir arriver des géants comme on a dans d'autres secteurs?
Alors, effectivement, dans plein de secteurs, et on a tendance à oublier que dans fintech, il y a le mot tech, oui. Mais il y a aussi le mot service financier, qui est quand même un monde complètement à mm-hmm. part, beaucoup plus régulé et beaucoup plus complexe que celui de la tech en tant que tel. Mm-hmm. Donc, traditionnellement, ce que les startups vendent, c'est la croissance infinie sur une base de coûts à peu près constante, oui. pour justifier des valorisations super élevées. Le challenge, c'est que pour les fintech, c'est plus compliqué d'avoir ce genre de logique. Évidemment, il y a des exceptions. Il va y avoir PayPal ou des noms que tout le monde connaît. Mais c'est plutôt pas la règle.
Je cherchais dans le monde de paiement. C'est Stripe, là, dans le monde des paiements. Stripe, voilà, dans le monde
Stripe
des paiements.
Stripe aussi. Mais même Stripe, en réalité, va avoir une valorisation qui est super importante, oui. mais qui reste circonscrite à un petit monde. C'est Quand vrai. On voit les services financiers, de manière globale, on se dit c'est 10 000 milliards de chiffre d'affaires au niveau global, les fintechs représentent 2%, banco, ça va faire une super croissance, une super valo, on va tout casser. En fait, quand on découpe un peu le problème, souvent, la plupart des fintechs ont des coûts d'acquisition clients qui sont assez élevés, oui. parce qu'elles ont une mission d'éducation quand elles fournissent un service qui n'était pas forcément fourni à leurs clients auparavant. Il faut les convaincre d'utiliser leur service, ce qui n'est jamais une position très confortable. Ensuite, pour être pertinente et apporter la rupture technologique, l'innovation d'expérience, une construction de business model, en général, elles sont plutôt concentrées sur mm-hmm. un exemple, enfin sur une verticale métier particulier. Par exemple, Stripe, c'est les paiements pour les petites entreprises online à la oui. base, et c'est une sous-niche, du coup, qui est significative, donc c'est intéressant, mais quand même. Et le troisième élément, c'est que pour venir compenser le côté je suis monoproduit et je sers des clients qui ont plutôt un petit panier moyen, et en plus, je dois investir pour faire de l'acquisition, on va vendre une histoire d'internationalisation. Et c'est là qu'on se heurte de plein fouet à des différences de régulation, d'un côté, mm-hmm. et aussi à de vraies différences d'usage dans la façon dont les gens paient, dans la façon dont les gens gèrent leur crédit, etc.
Et est-ce que, par rapport à tout ce que vous dites, est-ce que pour vous, il y a l'âge d'or des fintech, là, il est derrière nous, ou on a encore beaucoup de choses à...
Non, il y a encore plein de choses à faire, parce que derrière, on a des vrais business models qui ont du sens. Quand on prend la possibilité d'augmenter la pénétration du crédit, faciliter la gestion de trésorerie, etc., il y a plein de choses qui se passent qui sont très intéressantes. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Covid, les gens ont un peu oublié l'aspect service financier oui. de la fintech et ont trop fait l'amalgame avec la tech tout court. Ce qui fait que, quand on s'est rendu compte qu'avec la remontée des taux, c'était bien un environnement qui était fondamentalement différent, avec des logiques et des business qui n'avaient rien à voir, on est passé de x20 en multiple de revenus à x3 ou 4. La réalité, c'est que derrière, c'est un marché sur lequel il y a un énorme potentiel de pénétration, que toute cette rareté des fonds des derniers mois a permis aux fintechs de revoir un peu la façon dont elles se développaient et de se reconcentrer sur là où elles ont vraiment de la valeur à apporter pour l'écosystème.
Il faut qu'elles se concentrent sur leur cœur métier, et j'imagine que c'est le cas pour vous. Morgane Oana, merci à toutes les deux. Alban de Vauplane, partenaire au BCG. Morgane Oana, cofondatrice de la fintech De Facto. Merci d'être venue nous dépeindre cet univers des fintechs. Vous voyez, c'est un mot valise, oui, c'est certain, mais lorsqu'on creuse un peu, on commence à comprendre un peu comment tout cela se segmente et les opportunités de marché pour vous, entreprises qui veulent utiliser ces services-là ou qui veulent investir dans ces entreprises. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.